Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Pierre de Villeneuve.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans les grandes voix. Bonjour à Catherine, Michel Cotta et Charles Villeneuve.
Bonjour, bonjour.
Au programme de votre émission ce samedi, cette semaine, les députés ont élu les cadres de l'Assemblée nationale. Si la présidence reste dans le giron de la majorité, la stratégique commission des finances échoue à la France insoumise en la personne d'Éric Coquerel. Sueur froide en perspective au sein de l'exécutif qui craint dès la semaine prochaine un vote de défiance à l'égard de la première ministre. Le gouvernement, lui, est à l'arrêt en attente de remaniement, le tout dans un silence savamment entretenu par le président de la République. La guerre en Ukraine se poursuit et deux pays frontaliers de la Russie obtiennent leur ticket à l'OTAN. L'OTAN qui, pour la première fois, défie la Chine en déclarant qu'elle représente justement un défi pour ses intérêts et sa sécurité. Une nouvelle fois, les cartes sont rebattues et la présidence française du Conseil de l'Europe passe la main à la République tchèque. Quel bilan pour Emmanuel Macron? Quelle réaction de la part du Kremlin? Nous en parlerons. Et puis le rideau est tombé au palais de justice de Paris sur le procès du 13 novembre. Réclusion criminelle à perpétuité et période de sûreté incompressible pour Salah Abdeslam. En tout, 19 accusés sur 20 reconnus coupables à l'issue de plus de 10 mois d'audience. Mais ce procès pour l'histoire a-t-il pour autant livré de réels enseignements? Débat en fin d'émission. Vous avez le programme, les débats des grandes voix. C'est parti. Deux élections stratégiques à l'Assemblée cette semaine, en ce début de mandature. La première en début de semaine, Yaël Braun-Pivet, première femme de l'histoire à l'Assemblée nationale, a accédé au perchoir. Et puis bien sûr, Éric Coquerel à la présidence de la très stratégique commission des finances que convoitaient la NUP et le RN. Qu'est-ce que cela nous augure, Michel Cotta?
Ça nous augure... ça augure
ça
plutôt,
commence par un soupir.
Plutôt, voilà. Ça augure plutôt des difficultés. Mais je veux dire, c'est tout à fait... C'est très intéressant ce qui s'est passé à l'Assemblée cette semaine. Pas seulement à cause de Coquerel, mais à cause de la volonté de la majorité, au fond, d'équilibrer et de rendre des bureaux et des présidences de commission analogues au vote. Et le vote, c'est effectivement une montée des deux extrêmes. Donc, ça se reflète maintenant à l'intérieur des différentes
c'est-à-dire
instances.
C'est-à-dire les extrêmes qui veulent la proportionnelle depuis des années,
ils l'ont
par défaut,
alors, le paradoxe,
avec un système qui n'est pas proportionnel.
Le paradoxe, c'est que d'un côté, l'Assemblée, les responsables ne pouvaient pas ignorer le verdict des urnes, et que de l'autre, ce verdict fait émerger, effectivement, à l'Assemblée, deux forces qui sont le Rassemblement national et la France insoumise, qui maintenant sont à des postes importants, avec cette divergence entre le Front national et les insoumis, que le Front national fait tout pour se normaliser. Marine Le Pen leur a dit, vous arrivez avec des cravates, vous êtes bien habillés, etc. Tandis que les insoumis font tout pour apparaître insoumis et, en savate et sans cravate.
Je pense qu'il y a un dress code quand même à l'Assemblée, non?
Il y a un dress code.
Il n'y avait plus? Il n'y a plus.
Enfin, côté insoumis, il n'y est pas encore.
Oui.
C'est plus original.
Bon, on a vu
Coquerel Rassemblement national,
cravaté.
Mais Éric Coquerel, lui... s'est déguisé en président de commission. Moi, je ne le reconnaissais pas. Je me dis, tiens, c'est lui ou pas? Il s'est coupé les cheveux, il met une cravate. Bon, est-ce qu'il va adopter d'ailleurs tous les codes? C'est-à-dire qu'il a droit à un grand bureau de président de commission, une voiture avec un chauffeur.
Il va se gêner.
Est-ce qu'il va se gêner ou est-ce qu'il le prendra quand il pleut seulement? Je veux dire, on ne sait pas quel président il va être. Mais là, son élection, dans le fond, il a été possible. Parce que selon elle a été revendiquée par la NUPES au motif que c'était le groupe le plus important, 143 députés, et que les commissaires ont été élus dans les commissions sur le sigle NUPES et non pas des choses différentes, ni socialistes, écologistes. Bon, et au titre de la NUPES, il y avait à la commission 20 commissaires NUPES, c'est-à-dire plus que le Rassemblement national, plus que les LR et tout ça. Et donc, au final, monsieur a été élu avec le quota des voix NUPES. Je veux dire, donc, quand il dit « je suis élu de toute la commission », non, il a été élu par 20 députés, 20 commissaires d'une commission qui en compte 73, alors que les 32 commissaires de la majorité n'ont pas voté. Vous voyez ? Bon, ben voilà.
Charles Villeneuve.
Ben, on se plaignait quand même durant 5 ans de l'atonie du Parlement.
Oui.
Et enfin, il se passe quelque chose à l'Assemblée nationale. Alors, en tenue... passons sur la culture du débraillé de la France insoumise, notamment à travers le plus jeune parlementaire de 21 ans qui, lui, par-dessus le marché, a sanctionné les députés tout à fait élus légitimement du Rassemblement national.
Bon, la moindre des courtoisies, en refusant de leur serrer la main, c'est ça.
Voilà,
que
la moindre des courtoisies aurait été de leur serrer la main. Le Rassemblement national, lui, n'est pas passé tout à fait aux trois pièces cravate, mais quand même à la veste et
c'est
à
l'été,
la cravate.
Charles.
C'est vrai, c'est un été précoce, mais bon, pour autant, vous savez, il y a des costumes. On le voit ce matin, d'ailleurs, avec Catherine Ney. Des costumes l'été et quand il fait chaud qui sont très agréables.
Magnifique, Catherine.
À passer,
avec
absolument.
Sa
elle est en battle dress de la guerre du sable ce matin.
Vous voyez,
kaki.
Ça intéresse les auditeurs.
Oui, pourquoi pas.
Oui.
En général, on pose pas mal de questions sur Catherine. Et donc, permets-moi de te décrire vestimentairement. Donc, quant à Marine Le Pen, elle ajuste son image à celle que les électeurs lui ont donné par le vote de 89 députés. Et d'ailleurs, Catherine vient de démontrer que c'est le cartel des gauches qui a élu Coquerel à la tête. Et c'est pas du tout la France insoumise. Et par contre, le principal parti de l'opposition, 89 députés, c'est le Rassemblement national qui a eu quand même 2 vice-présidents. Bon, et c'est vrai qu'elle commence, je dirais, à se... en quelque sorte, à sortir de la semi-clandestinité, on l'avait contraint de se tenir. Donc, je trouve que, pour répondre à votre question, ça augure eh ben, d'un Jupiter qui va descendre de son Olympe, qui va s'occuper, qui va peut-être un peu plus dialoguer avec les patrons de commission, ou en tout cas les parlementaires. Ça augure le fait que la Première ministre,
oui. Madame Borne,
qui est une persévérante... manifestement, va devoir composer un nouveau gouvernement et peut-être même se soumettre au vote de l'Assemblée. Donc, ça augure...
On va en parler, on va en parler tout à l'heure de Madame Borne.
De quoi alimenter notre émission.
Et de son remaniement. Vous avez vu quand même qu'il y a une polémique autour d'Éric Coquerel. Hein, ça s'est allé vite, oui, là, déjà, sur son comportement,
oui,
apparemment, avec les femmes.
Franchement,
Michel Cotta.
Oui, c'est facile maintenant. On sait bien que dès que quelqu'un est nommé ou se prépare à être nommé, moi, je ne sais rien du tout sur ce qu'a fait Éric Coquerel. J'en sais rien. C'est simplement le systématisme qui m'étonne. Dès que quelqu'un est nommé, il a eu un comportement. Alors, il faut croire que tout le monde a des comportements désagréables avec les femmes. Mmh. Alors, je sais que j'ai sûrement des femmes qui sont émues par ce que je dis, et même qui trouvent que je suis trop gentille avec les hommes. Enfin, encore une fois, moi, quand je vois qu'une obstétricienne vient de se faire accuser, qui est ministre, vient de se faire accuser de violer des femmes, alors peut-être que je ne sais pas, on ne sait pas ce que... Enfin, on ne peut pas vous décrire ce que c'est,
dossier,
mais à mon avis,
on n'a
pas de dossier.
Parce que tout examen gynécologie, les femmes le ressentent comme chose de désagréable, sinon un viol.
Ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait quand même, à un moment donné, distinguer le vrai du faux. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais juste rajouter un mot sur Marine Le Pen.
Oui.
Ce qui est important, c'est que dans cette assemblée, Mélenchon n'est plus là. Édouard Philippe n'est plus là. Et n'est pas là. François Bayrou n'est pas là. Eh bien, la seule leader qui a compris que tout allait se passer à l'Assemblée nationale, ou que beaucoup de choses allaient se passer à l'Assemblée nationale, c'est Marine Le Pen. Et elle s'est complètement investie. Elle a laissé son parti et tout ça. Et eh bien, elle ne s'est pas investie pour rien. Et à mon avis, derrière ça, il y a une grande ambition, d'abord, qui passe par la normalisation, et ensuite... par un dernier essai à la présidence de la République.
Oui, ça fait partie des grands bouleversements qui se sont passés depuis 5 ans. Il faut voir qu'en 5 ans, l'Assemblée nationale aura été renouvelée complètement. C'est-à-dire qu'avec l'élection d'Emmanuel Macron, sur sa majorité de 328, il y avait 300 nouveaux qui ont appris le métier, qui certains ont appris, d'autres n'ont pas, toujours pas appris. Et puis, en tous les cas, du côté de la gauche... ben, ils étaient 17 LFI, ils sont 73. Ben, ça en fait 55 qui sont des nouveaux auxquels il faut apprendre le métier. Et alors, c'est encore pire du côté du Rassemblement national. D'ailleurs, ces députés vont avoir des cours. Comment, voilà, ils ne connaissent pas le métier. Donc, ce sont des nouveaux qui n'ont aucun code, qui ne savent pas comment on fait une loi, qui ne connaissent rien.
Ça avait été le cas déjà en 2017, d'ailleurs.
Ça avait déjà été en cas 2017, ce qui avait eu pour avantage du président, comme c'était des députés qui avaient été élus sur son nom, ça lui donnait vraiment l'occasion d'être Jupiter, c'est-à-dire qu'il lui donnait leur élection.
Comme ça a déjà
ce qui n'est plus vrai aujourd'hui, parce que les députés En Marche ont été réélus, pas forcément sur son nom, c'est malgré son nom pour certains, parce qu'on connaissait l'état du pays vis-à-vis du président. Donc ça leur donne une autonomie qui se reflète avec l'élection de Mme Yaël Braun-Pivet, alors qu'elle n'était pas la candidate de l'Élysée.
10h17, une pause, on revient dans un instant, on va parler notamment de ce discours de politique générale qu'on attend de Elisabeth Borne, avec ou sans remaniement d'ailleurs, à tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Les grandes voix d'Europe 1, Catherine et Charles Villeneuve et Michel Cotard. On va parler de Madame Borne dans un petit instant, mais Charles, vous vouliez revenir sur le cas Éric Coquerel.
Non, je veux dire que évidemment, on accorde à Coquerel un nombre de pouvoirs qu'il aura, parce que c'est une place évidemment importante, évidemment présider la commission des finances. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un rôle qui est joué de manière très importante, une sorte de rôle de contrôle. Par ce qu'on appelle, vous savez qu'il y a des rapporteurs généraux, que ce soit dans les affaires sociales ou évidemment au budget de la défense ou au budget simplement, c'est-à-dire la commission des finances. Et son rôle est de présenter aux parlementaires les lois de finances et de financement de la sécurité sociale, d'assurer la liaison entre le Parlement et le gouvernement. Et il doit, et c'est dans sa vocation, écouter évidemment ses collègues des commissions, convaincre ces mêmes collègues qui, le plus souvent, ne peuvent faire adopter une mesure sans leur accord. Bon, c'est-à-dire l'accord du rapporteur général. Donc, il y a quand même une tutelle, en quelque sorte.
Une digue.
un obstacle qu'il faut franchir, même pour le président de la commission des finances.
Mmh. Catherine.
Non, mais le cas Coquerel, il était déjà commissaire à la commission des finances dans le quinquennat précédent.
Encore qu'il n'ait pas une formation d'économiste du tout.
Mais d'ailleurs, c'est comme ça qu'il s'était fait remarquer, comme quelqu'un qui grognait, qui faisait de la politique et qui évidemment s'opposait.
Mais pas d'économie.
Et d'ailleurs, il vient d'être élu et Clémentine Autain, qui dit toujours les choses, vient de dire, mais c'est un poste politique, il va mener des campagnes politiques, il ne s'agit pas de désigner le grand administrateur de la commission des finances. Mais c'est vrai qu'il n'en est pas capable par ses compétences, mais il a des gens qui travaillent pour lui, qui sont très compétents autour de lui. Bon. Mais il a quand même un pouvoir qui est extraordinaire, c'est le président de la commission des finances qui dit si les amendements déposés à la commission des finances et dans toutes les autres commissions, si ces amendements sont recevables ou pas.
Il donne le go.
Donc, c'est un pouvoir extraordinaire.
Oui, c'est vrai.
Et Eric Woerth...
Il filtre tous les amendements.
Ça fait beaucoup.
Par exemple, Eric Woerth, qui est le président des commissions, disait que dans le quinquennat, il en avait examiné plus de 93 000, lui et ses équipes, qu'il en avait rejeté 24 000. Mais ça demande une technicité, un savoir que n'a pas Coquerel. Vous voyez, ça c'est sûr.
Donc vous craignez des rejets politiques.
Non, mais il y aura des propositions politiques de sa part.
Politiciennes.
Bon, alors je crois que les présidents de commission peuvent aussi dire, on s'arrange autrement.
Il faut dire que les commissions sont trustées. Michel les Cotta. Autres commissions sont trustées absolument par la majorité
ensemble.
Donc, c'est vrai qu'il y a, de ce point de vue-là, on a donné un gros poste à Coquerel, mais... la majorité relative présidentielle a gardé les commissions.
C'est un poste névralgique.
On a compris que
c'est central.
Il a dit « je ne ferai pas de chasse aux sorcières ». Ça, c'est toujours très mauvais quand on commence à dire « je ne fais pas de chasse aux sorcières ». Mais surtout, il a ajouté « mais je suis insoumis et je le resterai dans ce poste ».
C'est comme le dentiste qui vous dit « vous inquiétez pas, ça fait pas mal ».
Oui,
c'est ça.
C'est la loi
de
Charles Villeneuve.
Oui, c'est pourquoi j'insistais sur le rôle du rapporteur général du budget, notamment.
Monsieur Cazeneuve, député du Gers.
Voilà,
il a un rôle de contrôle, de supervision indéniable. Donc, tout n'est pas ouvert, En réalité, on ne fait pas tout à fait ce qu'on veut, n'importe quand et n'importe comment.
Oui, mais ce qu'on peut craindre quand même, c'est justement chacun des contre-pouvoirs essayant d'équilibrer les autres, qu'on arrive à une espèce de paralysie des lois, de la mise en forme des lois, à se noyer. Et par exemple, ce sera très intéressant d'ailleurs de voir le premier exemple sur la prolongation, vous savez, de la veille sanitaire. Qui arrive, c'est le premier texte qui va être... Alors, est-ce que on va voir à la fois une partie de la France insoumise s'allier à une partie du Rassemblement national pour dire on ne veut plus de contraintes, de vaccins.
Ce sera un précédent. Bon,
au moment où le virus revient, on va voir si... on peut trouver une façon de se causer les uns aux autres sans s'injurier. Ça va être très intéressant parce que c'est un sujet qui est très social, qui intéresse tout le monde, à un moment aussi de recrudescence.
Oui, oui. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on dit, bon, le président jupitérien, la droite est jupitérienne, obéit. Mais il faut dire que la culture de chaque parti d'opposition, tous les partis en France ont une culture bonapartiste, à savoir qu'ils croient avoir raison. Tout seul contre les autres. Et donc, ils s'imaginent,
pourquoi
LFI,
c'est bonapartiste,
le Rassemblement National, LR, ils disent, ils veulent que leur programme, que le leur soit adopté. Donc, ce qui ne favorise pas le compromis. Voilà. Ils vont être obligés, mais ce n'est pas dans la culture.
Hein. On verra
je vais vous dire,
suite,
en Espagne, il aura fallu 3 dissolutions en 4 ans pour que des parlementaires qui étaient hostiles les uns aux autres arrivent à faire un compromis. Alors, si nous, il faut 4 dissolutions, voyez, on n'est pas au bout du chemin. Donc, ça va être très difficile pour chacun d'accepter des compromis.
Oui. Si les 3 oppositions s'abstiennent ou ne s'abstiennent pas et votent contre le gouvernement, à ce moment-là, il y a évidemment un feu rouge qui s'allume et la paralysie dont parlait Michel ou Catherine peut se produire. Mais en réalité, moi je crois que la majorité, il suffit que l'une des oppositions s'abstienne pour que ça passe.
Ouais.
Donc tout le jeu va consister justement à obtenir au moins une abstention
pour avoir une majorité relative.
Et d'ailleurs, ça que certains disent c'est le qui perd gagne quoi.
Mais il y a quand même à l'intérieur, je fais allusion à un article de Ferry dans le Figaro. Il y a quand même toute une partie de gens qui disent oui, mais si LR voulait se rapprocher de la majorité présidentielle et pas grand-chose, ne sait par certains, de la majorité présidentielle, alors tout serait changé. Et au fond, les Républicains ont maintenant, avec leur petit nombre de députés, 61. De quoi faire un parti charnière, et au fond, d'imposer ou de faire monter les enchères à la majorité présidentielle. Et là, de ce point de vue-là, évidemment, on voit bien les 2 stratégies où toutes les oppositions sont ensemble. Dans ce cas-là, il y a une dissolution dans 6 mois.
C'est ce que je voulais entendre. Cette dissolution dont on nous dit qu'elle va arriver, finalement, elle s'éloigne de plus en plus.
Ça a l'air évident
pour vous, Catherine, mais pour ceux qui nous écoutent.
Aucun député qui vient d'être élu n'a envie de dissolution.
Non, mais bien sûr.
Oui, d'accord, mais le président
n'a pas.
Ça dépend du président.
Le papier, la tribune à laquelle fait allusion Michel de Luc Ferry dans Le Figaro, c'est l'activisme pour le débauchage, c'est-à-dire les transfuges. On va rechercher, vous savez, dans les services secrets, on recherche toujours des transfuges.
Les agents doubles qui deviennent des agents tout court.
Pour connaître l'exacte stratégie de l'adversaire qui, de toute façon, a de moins en moins une opinion contradictoire. Bon, il y en a chez les LR qui sont tentés par ça. Et il est bien évidemment que la pêche est ouverte.
C'est pas le cas de Ferry. Le mot de la fin. 10h28 dans un instant, parce qu'après on n'aura plus le temps. Il faut quand même qu'on parle de Madame Borne et puis de la présidence française du Conseil de l'Europe. À tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Avec les grandes voix, Catherine Ney, Michel Cotta et Charles Villeneuve, premier test grandeur nature pour le gouvernement. Le discours de politique générale d'Elisabeth Borne, attendu mercredi au Palais Bourbon, doit-elle redouter un vote de défiance? Et si oui, peut-elle s'y soustraire? Ou plutôt, en a-t-elle les moyens? Alors qu'on ne sait toujours pas d'ailleurs si le remaniement aura lieu avant ou après ce fameux discours.
On a l'impression quand même qu'il aura... Il y a effectivement beaucoup de ministres à trouver. Entre les 3 qui ont été battues, celle qui est partie...
Justine Bénin, Amélie de Bonchemin et Brigitte Bourguignon.
Pour l'Assemblée nationale.
Yael Braun-Pivet.
Donc ça fait... Et puis, il faut quand même des rééquilibrages qui s'imposent sans doute avec le parti de François Bayrou, sans doute avec Horizon. Donc ça va être relativement plus long qu'on le pense. Ceci étant, la formation des gouvernements...
Donc pas de remaniement. Nous, on a connu
pas
de remaniement cette semaine, à votre avis.
Moi, je pense quand même que pour jeudi, on aura les ministres, je pense.
Moi, je pense rien. Donc, c'est vrai, parce que je vais vous dire, on ne sait pas qui... Ouais. Ce qui a beaucoup
difficile.
Changé aussi, c'est que beaucoup de gens élus, ou même auraient envie d'être ministres. Mais avec la transparence, où il faut dire à la fois quel est son patrimoine. Si vous oubliez un truc, vous êtes sûr que...
Un vélo.
Oui, il faut dire comme Madame
Taubira,
patrimoine de vélo. Elle était apte à faire de la politique parce qu'elle n'avait rien. Mais dès que vous avez plus de temps dit, ça sort aussitôt dans la presse. Vous êtes accusé d'être un riche, d'être un homme. Mais non, mais je veux dire, ça devient dingue. Et après, vous avez un contrôle normal qui dure pendant 5 ans tout le temps où vous êtes pendant la législature. Et les 5 ans qui suivent, pour savoir, vous avez été ministre, est-ce que votre emploi, est-ce que ce n'était pas un abus de pouvoir, de choses, et tout ça. Donc,
tu as raison, sauf que les gens refusent rarement. Ça s'est passé cette fois-ci, d'ailleurs.
Les gens
refusent rarement quand on leur propose un poste ministériel.
Mais encore faut-il des gens compétents aussi, si tu veux. Il ne suffit pas d'avoir une étiquette, il faut aussi être compétent. Et ça, c'est assez difficile
Charles
à trouver.
Moi, je pense que la Première ministre a tout intérêt à demander la confiance au Parlement. Parce que...
Elle risque rien.
Soit les trois oppositions votent ensemble contre elle, et auquel cas le gouvernement, évidemment, tombe. Et dans le cas contraire, si le Rassemblement national et les Républicains s'abstiennent, le gouvernement obtient la confiance. Elle a tout intérêt, donc, à demander la confiance, parce que je ne crois pas que les oppositions... vont de toute façon se ridiculiser dans un blocage immédiat du fonctionnement gouvernemental. Ce n'est pas ce que veut d'ailleurs, me semble-t-il, comme aurait dit Étienne Moujotte, le blocage. Elle ne veut pas donner tout de suite cette image, elle l'a dit, Marine Le Pen. Et pour Madame Borne, ce sera affirmer son autorité politique et elle va en avoir grand besoin dans les semaines qui viennent. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'elle demandera de voter la confiance à son gouvernement.
Oui, mais d'abord, qu'est-ce qu'il va y avoir dans son discours? Qu'est-ce qu'on va en retenir?
Ah oui, ça, hein, c'est
pas...
On ne sait pas.
Quoi? Pas de procès.
Je ne fais pas un procès.
Non, mais avant qu'elle ait parlé.
Mais non, mais je ne fais pas un procès.
Ouais.
Mais tout dépendra de ce qu'elle va dire aussi.
Oui, bien sûr,
voilà.
On est d'accord.
Je veux dire,
bon.
Ah, ça, et le temps aussi qu'elle va employer. Parce que Edith Cresson, je veux dire, le fait qu'elle ait une voix au perché faisait qu'elle avait parlé, que c'était assez difficile.
C'est pas le cas
d'Elisabeth. Et bien justement, comme elle a une voix de baryton, ou d'ancienne fumeuse, ça va plutôt l'aider.
Finalement, moi, je suis tout à fait d'accord. Il faut, elle ne peut, avec Charles Villeneuve, en disant que elle ne peut que demander la confiance. À mon avis, qu'elle refuse d'être soumise au verdict des députés, c'est un mauvais départ. De toute façon, c'est un mauvais départ. Il vaut mieux affronter les choses dès le début. Et j'arrive pas à comprendre cette espèce de suspense qui est autour de je présente la confiance du gouvernement ou pas. Pourquoi ce suspense, je ne sais pas. Je trouve qu'au contraire, ça ajoute une dramatisation inutile à quelque chose d'important, qui est que c'est le premier discours de politique générale d'une femme Premier ministre après un revers électoral, quand même.
Et
on peut appeler ça d'Emmanuel Macron. C'est pas commode, c'est pas facile, et il faut qu'elle prenne tous les risques. Voilà.
Avec une absence remarquée, d'ailleurs, d'Emmanuel Macron pendant tout ce temps-là. C'est-à-dire que...
Plus maintenant.
Mais
ils sont en train de travailler à l'Élysée.
Depuis hier, Michel Cotard.
Il a fait autre chose.
On
en parlera, d'ailleurs.
Très bien, mais enfin, la conséquence, c'est que lui, qui est quand même omniprésent, jupitérien, employez les mots que vous voulez. Bon, voilà, là, en l'occurrence...
Moi, je ne suis pas d'accord, Pierre. Je trouve qu'il a souvent eu ce comportement. très souvent. Il est resté, c'est un peu caricatural de dire toujours et de le répéter, un peu jupitérien sur ce plan-là. Il n'en pense pas moins. Il entend, il écoute, il ne réagit pas et à un moment donné, il choisit de réagir. Mais là, c'est le travail de la Première ministre. Et je trouve qu'elle a intérêt à renvoyer aux oppositions la responsabilité d'un éventuel blocage et l'incohérence qu'il y aurait de se coaliser contre elle en compagnie de l'extrême gauche, par exemple pour l'extrême droite, y compris pour les Républicains. Donc, fatalement, je dirais qu'il y aura une abstention et que la majorité relative se fera autour du programme et de ce qu'elle va nous présenter comme réforme, parce qu'elle arrive avec un package, en quelque sorte, un paquet de réformes, vraisemblablement. Ce sera ça, son discours de politique générale. Non, mais je ne le sais pas, mais le contraire non plus n'est pas su.
Oui, mais le problème, le président n'a pas fait de campagne pour la présidentielle. Il n'a pas fait de campagne pour les législatives. Et dans le fond, beaucoup de députés ont été élus sur son nom sans savoir trop où ils voulaient aller. Donc elle va devoir tracer des perspectives.
Voilà.
Donc on attend d'elle qu'elle soit.
Sauf voyez, que là, il y aura quand même.
Sauf qu'on ne rattrapera jamais. Moi, je crois qu'on ne rattrapera jamais sous ce quinquennat l'absence d'Emmanuel Macron dans la campagne présidentielle, dans la campagne législative, le fait que beaucoup de députés lui reprochent maintenant, beaucoup de députés élus LRM lui reprochent de ne pas avoir fait campagne, il n'a pas lancé, c'est à lui, c'est au président de la République de lancer quand même une perspective, de lancer des perspectives, de lancer, d'amener un élan, etc. Ça n'est pas fait et je crois que le Premier ministre aura beaucoup quand même, a du mal à donner, lui-même l'élan dirigé vers où on va. Ce sera des mesures de Premier ministre.
D'ailleurs. 10h38, on reparle d'Emmanuel Macron dans un autre contexte, celui de la présidence française de l'Union européenne. A tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Pierre de Villeneuve.
Retour des grandes voix pour cette dernière de la saison avec Catherine et Charles Villeneuve et Michel Cotta. La France a passé hier donc le relais de la présidence du Conseil de l'Europe à la République tchèque. C'est la fin de 6 mois de présidence française, marquée presque essentiellement par un conflit majeur, celui de la guerre en Ukraine, au détriment des ambitions d'Emmanuel Macron annoncées en fanfare en conférence de presse à l'Élysée en décembre dernier. D'abord, est-ce que cette présidence française a été un succès, Charles Villeneuve?
Oui.
Oui.
Oui. J'en veux pour preuve ce que disent la plupart des journaux que j'ai feuilletés, sans doute comme mes camarades, en Allemagne, en Italie, en Grèce, en Espagne, en Roumanie, c'est pratiquement unanime sur ce plan-là, aussi bien les politiques que les journalistes, que les commentateurs, que les éditorialistes. Tous disent que l'Europe, souligne que l'Europe a donné une aide financière de 9 milliards à l'Ukraine, qu'elle a accueilli 7 millions de réfugiés, que l'impulsion du président français et de ses équipes ont été névralgiques dans cette affaire, que l'Europe a connecté tout son réseau électrique au réseau électrique de l'Ukraine dans l'ensemble, ce qui a soulagé de manière assez formidable sur le plan de l'usage quotidien et aussi sur le plan économique les Ukrainiens. Elle a mis en place une taxe carbone aux frontières et ça, c'est aussi l'initiative du président français. Pour taxer les entreprises non européennes. La directive sur la régulation du marché numérique européen, qui est l'œuvre de Thierry Breton, plus les trafics des services numériques, le règlement sur le salaire minimum européen, les textes de parité des conseils d'administration femmes européens aussi, c'est une obligation maintenant sur le plan européen. Bon, je ne vais pas continuer sur la boussole stratégique, oui. Comment amplifier une défense européenne, comment améliorer l'industrie de défense par rapport à l'industrie de défense américaine qui inonde de ses avions une partie des pays européens comme l'Allemagne, etc. etc.
Moi, effectivement, je suis
Michel Cotta.
Absolument d'accord avec ce constat et ces différentes mesures. La seule interrogation que je me pose, c'est Emmanuel Macron, il a beaucoup, je pense que c'est une de ses seules convictions importantes, c'est l'indépendance de l'Europe. Alors, il a beaucoup la souveraineté, donc il a beaucoup parlé de nécessité de souveraineté sur les médicaments, le commerce, etc. Mais la présence, quand même, la présence insistante de l'OTAN à côté de cette Europe fait qu'on a l'impression quand même que loin d'être indépendante, L'Europe n'existe que quand l'Amérique est là. Moi, je trouve que là, c'est c'est un constat qui n'a rien à voir avec les mesures adoptées, mais avec l'ambiance. Est-ce qu'on peut parler d'Europe indépendante alors qu'on a l'impression quand même que l'Amérique, maintenant, est revenue sur le territoire européen ?
Oui, non, mais c'est vrai que pour les Européens demandent plus que jamais la protection de l'OTAN. Et donc, la défense européenne face à la Russie, eh ben, c'est l'OTAN. Bon. Mais il n'empêche que les Européens, ça ne s'arrête pas à la Russie. C'est-à-dire que tout ce qui est pour la cybersécurité, la lutte contre le terrorisme, tout un tas d'éléments, et même le spatial, la contrôle du spatial, s'il faut une cohérence européenne qui est quand même en marche. Bon. Et le fait que malgré l'OTAN, chaque pays européen, chaque composante, renforce son armement, ça ne dit pas encore qu'il y aura une armée européenne, mais quand le conflit sera terminé, je ne sais pas quand, avec la Russie, je veux dire, il y a quand même eu des avancées et le travail, quand même le sentiment que quand on est ensemble, on travaille mieux, quoi. Et ça, je crois que là, il y a quand même eu une avancée psychologique et une importante. Et quand même, le revirement de l'Allemagne est exceptionnel à ce titre.
Et dû complètement à Emmanuel Macron.
Ça,
personne n'hésite là-dessus.
L'OTAN accueillera bientôt la Suède et la Finlande. Donc finalement, il y a un
alors,
ticket.
Justement, justement.
Charles Villeneuve. Alors,
moi, j'adhère complètement à ce qu'ont dit mes deux camarades. C'est totalement vrai. Mais aussi, il faut souligner ce sur quoi insistait Michel Cotard, c'est qu'il y a une image, notamment au G7, qui est très caractéristique du placement de l'Europe sous pavillon américain. C'est que la conférence a consisté, c'est la première fois que je vois cette image, le président américain Biden qui s'avance tout seul au pupitre et derrière tous les autres pays qui participent. Mais derrière le président américain, c'est nouveau. Mmh. C'est une image que je n'avais jamais remarquée à l'occasion de la réunion du G7. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, les deux événements qui soulignent quand même une certaine souveraineté européenne, qui se sont déroulés, deux piliers qui se sont effondrés et qui déplaisent souverainement, si j'ose dire, aux Russes, c'est la neutralité de la Finlande qui est terminée. Quand on disait finlandiser, on disait neutralité. Mmh. Or, la Finlande n'est plus neutre, au contraire, elle se rallie, elle aussi, à l'OTAN, complètement. Elle a 1300 kilomètres de frontières communes avec, j'allais dire, l'Union soviétique, avec la Russie, et le désarmement de l'Allemagne est terminé. Le terme de finlandisation disparaît, et l'Allemagne se réarme. Ce sont deux, si vous voulez, jusqu'à présent, situations qui en quelque sorte, plaisait à la Russie. Or, plus la guerre Ukraine-Russe dure, et plus on va vers une rupture presque totale entre la Russie et l'Europe aussi. Ce qui fait évidemment le jeu des États-Unis.
Un petit mot quand même de cette île aux serpents qui a été l'objet de convoitises à la fois russe et ukrainienne tour à tour.
Oui, on voit bien comment l'île aux serpents, c'est une toute petite... toute petite île de je sais pas, 17 hectares.
Oui. Au milieu de la mer Noire.
Ouais. Qui quand même
permet un contrôle.
Contrôle de la mer moyenne en quoi les Russes donc, s'en sont retirés parce qu'ils ont été...
Acte de bonne volonté.
Mais non, c'est ce qu'ils disent. En réalité, c'est sous le feu. C'est quand même sous le feu.
C'est ce que dit le Kremlin.
C'est sous le feu des
canons César, d'ailleurs, qui ont été... fournis par la France, en partie.
Qui ont participé au bombardement.
Alors, mais le problème, c'est presque une victoire à la Pyrrhus, parce que personne ne peut y rester sur cette île des serpents. Et si les Ukrainiens vont s'y installer, ils vont être aussi canardés.
Elle porte bien son nom.
Et puis, il y a eu cette conséquence absolument tragique sur le bombardement d'Odessa, qui est une nouveauté. On avait l'impression jusqu'à présent que cette... capitale, cette grande ville quand même, serait préservée par les Russes. Serait préservée par les Russes parce que justement, elle est russe. Oui. Eh bien non, c'est-à-dire que les Russes en ont profité quand même, même s'ils ont perdu la bataille de l'île aux serpents, pour démontrer qu'ils pouvaient frapper où ils voulaient, quand ils voulaient, au centre du pays ou ailleurs, ou au sud du pays.
Catherine. Oui, c'est une vengeance de Poutine et qui pose la question jusqu'où veut-il aller, comment va-t-il s'arrêter. Et on sent que là, c'est une riposte à ce qui vient de se passer au G7 et tout ça. Donc, pour l'instant, il y a une avancée au Donbass. Les inconnus de l'été, de l'année qui vient, c'est combien de temps la guerre va-t-elle durer? Est-ce que les forces russes, est-ce qu'il a besoin de s'arrêter un moment pour se refaire des forces, se ressourcer pour aller plus loin ensuite, parce qu'il ne lâche jamais. Il y avait bien eu un traité de paix en Tchétchénie. Alors, la Tchétchénie, ce n'était pas la chose. Bon, eh ben, il est revenu dessus et
il a
mis ses copains au pouvoir. Donc là, il veut pas lâcher. Et comme il est au pouvoir jusqu'en 2036, si Dieu lui prête vie, vous voyez, il a le temps de faire beaucoup de dégâts.
Charles Villeneuve.
On va assister d'ailleurs à une sorte de pause de l'avancée russe et un redéploiement de ses objectifs. Les satellites, si vous voulez, de l'OTAN sont en train d'observer justement ce mouvement de troupes. Il faut savoir aussi que l'île aux serpents, pour qui l'occupe, permet de contrôler toute la navigation maritime des bateaux qui vont ou sortent des ports ukrainiens et notamment du port d'Odessa. Et évidemment, c'est le contrôle des convois de céréales. Éventuellement, puisque plus rien ne sort pour l'instant, tout est bloqué dans les silos ukrainiens.
Et, que les Russes bombardent d'ailleurs.
Oui, et c'est une, sur ces 17 hectares, c'est, en réalité, sont occupés par une station radar qui est couplée avec des batteries anti-aériennes et anti-maritimes. C'est en cela que, vraisemblablement, après que les Ukrainiens l'occupent à l'heure actuelle, les Russes tenteront de réoccuper cette même île aux serpents.
10h50, une pause et on parle des attentats du 13 novembre. À tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Dernière partie des grandes voix avec cette fin du procès du 13 novembre, procès hors norme qui a donc condamné à la perpétuité avec une période de sûreté incompressible Salah Abdeslam, le principal protagoniste de ces procès. 19 accusés sur 20 reconnus coupables, 10 mois d'audience, procès hors norme, soulagement des associations de victimes. C'est la fin d'un procès. Beaucoup d'observateurs parle des enseignements précieux qui seront sans doute relayés dans les livres d'histoire. Qu'en pensez-vous, Charles Villeneuve ?
Sur le plan du verdict, certainement, sur le plan de la procédure et de la trouvaille du parquet national antiterroriste qui a une idée clé qui était de considérer tous les lieux différents des attentats comme une scène de crime unique, oui. Sur le verdict tel que l'a détaillé dans ses attendus le président de cette cour spéciale, oui. Parce que l'individualisation des cas, on en a tenu compte de manière formidable. Mais cette cour d'assises spéciale, pour moi, a jugé une série de crimes organisés en faisant abstraction totalement de ce qui est l'essentiel, le pourquoi du comment d'une idéologie d'extermination érigée en État, l'idéologie islamiste, son organisation, ses recrutements, sa propagande, ses agents recrutés, on en avait. Deux, et tueurs, son financement. On en avait deux, donc, sous la main, Omran Benatar et évidemment Salah Abdeslam. Et regardez ce qu'est un procès historique à travers, j'irai assez loin, Nuremberg 45-46, ou même le procès d'Adolf Eichmann, qui a été le logisticien, en quelque sorte, de l'extermination des Juifs, de la solution finale. On a appris, compris tous les mécanismes qui avaient conduit à ces crimes contre l'humanité. Et là, non.
Non seulement ça, mais le mot, on a traité tous ces condamnés comme s'ils étaient des droits communs, en quelque sorte. On n'a pas dit les motivations, la motivation, on n'a pas une seule fois parlé de religion. En fait, c'est un procès pour les victimes, je pense, et pour les parents des victimes, qui tous ont trouvé que les condamnations étaient justes, équilibrées, et même les avocats des différents, des 19 personnes qui étaient là. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est réussi. Mais c'est vrai, on n'a pas fait le procès du terrorisme islamiste. Voilà, comme si, quelque part, on n'osait pas le faire.
Catherine.
Oui, et puis, c'est vrai, il y a eu 2000... partis civils qui se sont exprimés. Et pendant 9 mois, tous ces gens sont restés ensemble. Donc, pour l'histoire, c'est ça que l'on gardera. Et qu'ils ont retrouvé une communauté de malheurs et une communauté de gens qui, eux, étaient condamnés à la perpétuité. et qui voulaient qu'il y ait un exemple pour le, ceux qui leur avaient fait subir un malheur dont ils ne se remettent pas. Et ça leur a apporté un peu de chaleur et ça leur a permis de sortir de ce procès en se disant non pas qu'ils avaient été vengés, mais qu'une certaine forme de justice était passée. C'est ça qui est intéressant. Oui, mais est-ce que ça empêchera d'autres crimes islamistes de recommencer? Ça, je ne le sais pas. Est-ce qu'on a compris ce qu'était l'islam? Non.
L'islamisme.
L'islamisme, tu as raison. Non.
Oui. Merci les grandes voix. Merci de m'avoir accompagné tout au long de cette année. Elle était riche, nous avons vécu beaucoup d'événements ensemble et nous recommencerons puisque nous nous retrouvons avec grand plaisir avec Michel Cotta, Catherine Ney et Charles Villeneuve à la rentrée le 3 septembre prochain. D'ici là, un bel été et bonjour Laurent Mariotte.
Bonjour Pierre et bonjour les grandes voix.
Bonjour.
Ce midi, on en croque pour la tomate cerise. Figurez-vous, peut-être que vous la servez à l'apéritif. Alors pourquoi a-t-elle autant la cote? On va tout vous dire. On vous emmène aussi dans les relais routiers. Ils ont la cote eux aussi et Didier Barbelivien sera des nôtres pour un joli plat du midi. A tout de suite.
A tout de suite Laurent.